dans une session sur le travail. Il est tout proche de Noël. Je dis pas que Noël c'est la fête du travail. C'est la fête de l'amour. C'est aussi le travail. Mais qui met au monde son enfant. C'est vrai. Un labeur que Dieu a sanctifié d'une manière étonnante en Marie. Avec sa maternité divine, qu'il y a le lien, l'unité. Ce labeur humain, c'est même très étonnant. Au point de vue humain, la procréation, la mère qui porte son petit enfant, travail naturel qui d'une certaine manière est au sommet le travail demande d'être efficace comme le labeur le plus naturel qui soit, un labeur substantiel, radical, et qui en Marie est complètement transformé par la grâce. Sa maternité est à la fois contemplative, la parole de saint Anselme et de saint Augustin. Prius concepit in corde quam incarne. Elle a d'abord conçu dans sa foi avant de concevoir dans sa chair. Et elle a conçu d'abord dans sa foi puisque elle dit le fiat à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole de l'ange annonce qu'elle sera la mère du Fils du Très-Haut. Sa maternité rejoint donc par la foi le mystère du Fils bien-aimé du Père. Elle conçoit d'abord dans sa foi avant de concevoir dans sa chair. Toujours mettre en parallèle ce labeur joyeux quant à son résultat de la mère des mères, qui met au monde l'enfant par excellence, le tout petit, qui met au monde le Fils de Dieu, assumant la nature humaine en Marie. Et le labeur de la croix. À la croix, le labeur, c'est Jésus. Quand on ne peut plus travailler en raison de sa faiblesse, en raison de ses maladies, en raison de ses infirmités, on travaille encore d'une manière toute passive dans son corps. Il y a un labeur à la croix. le labeur de celui qui connaît la flagellation, la crucifixion, et qui pâtit. La souffrance du crucifié. Et Marie vit de ce travail de la croix. Elle compatit. Et c'est encore un labeur. Compatir est un labeur. Rien n'est plus fatigant que de compatir à quelqu'un qui n'en peut plus et qui meurt. Il y a, pour bien comprendre tout cela, une parole de Jésus qui me semble extrêmement importante. À propos, justement, du travail et de la sanctification du travail. Jésus, au chapitre 6, réalise ce miracle de la multiplication des pains. Jésus montre bien que le charisme qu'il a fait qu'il est au-delà du travail. Bénir des petits pains et des petits poissons et en nourrir 5 000 hommes, 10 000 femmes, 15 000 enfants. Je dis ça selon les statistiques. Dans les pèlerinages, c'est toujours comme ça. Il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes, normalement. Et puis, il y a 3 fois plus d'enfants quand les pèlerinages sont sur le terrain. Et quand il s'agit de Jésus, alors là, nourrir cette quantité de pèlerins gratuitement, sans travail, c'est extraordinaire. On comprend que les hommes qui sont là proclament Jésus roi. C'est merveilleux d'avoir un roi qui vous donne du pain tous les jours sans qu'on ait à travailler. Il y a une sécurité à ce moment-là. Il n'y a plus de chômage. C'est réglé. Des petits pains frais. Et du poisson frais, autant qu'on en veut. Alors on le proclame roi. Et Jésus ne veut pas de cela. Il n'est pas venu pour un bien-être humain. Il n'est pas venu pour être roi au niveau temporel, au niveau de l'efficacité humaine. Vous savez bien le danger perpétuel à l'égard de Jésus, c'est de faire de lui un Messie qui vient donner tous les biens temporels, qui vient transformer le travail. Le messianisme temporel, c'est toujours très inscrit dans le cœur de l'homme. Il ne faut pas croire du tout que c'est terminé, même après la venue du Christ. Ça renaît tout le temps. Et comme l'Église a la même mission que le Christ, on a la même conception d'Église. Il faudrait que l'Église soit en premier lieu chargée de supprimer le chômage. Il faudrait que l'Église soit en premier lieu juste donné vient temporel, et ainsi de suite, voyez. On a beaucoup de peine à ne pas s'arrêter à cela, puisque la conception qu'on a du Christ, on la projette sur l'Église. Or, c'est très net ici. Hein. On veut proclamer Jésus roi. Les apôtres qui ont été contaminés par la spiritualité du contact, c'est vrai, ils ont aussi proclamé Jésus roi. Or, le miracle de la multiplication des pains selon l'évangile de Jean semble bien arriver au moment où la prédication du Christ a connu le plus grand succès. À Jérusalem. Il semble bien. C'est pas noté, c'est pas dit, donc j'ai le droit d'avoir une opinion. Vous avez la vôtre si vous voulez, mais il me semble bien. Il y a un succès prodigieux. 5000 hommes qui suivent Jésus. Toutes ces femmes, tous ces enfants, Jésus. Faut se représenter ça. Quand même une manifestation assez grande et assez poignante. Les apôtres, très vite, ont compris qu'ils avaient pris une voie dérivée. Jésus ne venait pas pour être roi. Ils ont compris ça. Et donc, ils s'écartent de la foule. Il retourne en barque à Capharnaüm. Il y a une tempête. Et les tempêtes du lac, surtout, les tempêtes du lac de Galilée, sont particulièrement perfides. On voit très bien comment ils font tout ce qu'ils peuvent pour aller le plus vite possible à Capharnaüm. Et c'est long. Et durant la nuit, Jésus va au-devant des disciples. C'est très beau. Et dès que Jésus est là, immédiatement, la barque touche le rivage. Voyez, ces trois miracles, multiplication des pains, la marche sur le lac pendant la nuit, et une nuit de tempête, pas une mer d'huile, et l'efficacité de la présence. Ces trois miracles préparent l'annonce prophétique du mystère de l'Eucharistie. Ce chapitre 6 dans Saint Jean, c'est la grande théologie de l'Eucharistie. C'est ce qu'il y a de plus grand. Il faut lire et le relire et demander à l'Esprit Saint de le comprendre. Parce que c'est la grande prédication de l'Eucharistie, prédication prophétique, où Jésus annonce qu'un jour il donnera sa chair en nourriture et son sang en boisson. Et cet enseignement prophétique est préparé par trois signes, parce que le mystère de l'Eucharistie implique les trois. Un repas, une présence et une efficacité prodigieuse à la présence. C'est ça le mystère de l'Eucharistie. Et quand vous faites une visite au Saint-Sacrement, il faut toujours les trois points. Et c'est très beau. On a soif de se nourrir de Jésus. On a soif de sa présence. Et on sait que lorsqu'il est là, on atteint le terme. L'Eucharistie, c'est le viatique. Quand Jésus arrive à Capharnaüm, durant la nuit, il se repose et que le matin, il est dérangé par l'arrivée de tous ceux auxquels il avait donné en surabondance les petits pains chauds et les poissons frais. Cette foule veut savoir comment Jésus est arrivé là. Elle est curieuse. Il demande à Jésus des comptes. Et alors Jésus répond. Manière extrêmement forte. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus n'aime pas ça. N'aime pas qu'on le cherche pour être rassasié temporellement. Vous voyez, c'est là où on voit que le messianisme temporel, considérer Jésus comme celui qui vient établir un messianisme temporel, blesse terriblement le cœur de Jésus. Chapitre 6, verset 26. Et Jésus ajoute, « Travaillez à acquérir non la nourriture qui périt, mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué d'un sceau. » Cette parole est très très importante au point de vue d'un regard théologique sur le travail. Que doit être le travail pour un chrétien? C'est important de se poser la question. La matière n'est pas changée. Un menuisier chrétien, Joseph, travaillait le bois, comme notre frère Joseph. Comme tout bon menuisier, en regardant la qualité du bois. Les outils ne sont pas changés, même s'ils reçoivent une bénédiction. Même avec une auto bénie, on peut avoir des accidents. C'est sûr. L'homme est changé comme chrétien. Il y a une personnalité chrétienne qui n'est pas la personnalité de l'homme tout court. Et donc tout ce que fait le chrétien, il peut le faire comme chrétien ou comme fils d'Adam. Comme fils d'Adam, c'est pas très beau. Les trois concupiscences. Il descend le fleuve. C'est vrai. Comme descendant d'Adam, il est soumis aux conséquences du péché originel. Mais comme racheté par le Christ, il agit en chrétien. Comment comprendre que la foi, l'espérance et la charité, des vertus théologales, vont modifier le travail chez le chrétien? C'est sûr que le chrétien aura plus de générosité pour travailler, parce qu'il travaille pour le Christ. Mais ça ne change pas le travail et la finalité du travail. Ce qui est très extraordinaire ici, et on ne le relève pas assez, le Saint-Père n'avait pas à le relever dans son encyclique sur le travail, Et j'aurais aimé qu'à la fin, il demande que les vrais travailleurs regardent Marie, et que Marie travaillait merveilleusement. Comme Marie, à Cana, travaillait merveilleusement. Et Marie nous apprend à travailler. Mais il y a ici quelque chose de très précis. Travailler, œuvrer, selon le terme grec. Hein, parce qu'il n'y a pas de terme travailler en grec. Il y a œuvrer, faire une œuvre. Œuvrer à acquérir non la nourriture qui périt. Jésus aurait pu ajouter, les païens font de même. Mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué d'un sceau. C'est très fort ça. Normalement, le père de famille travaille pour quoi ? Pour que sa maison, son foyer et la nourriture. Pour que ses enfants aient le pain. Et c'est très loyal, ça. Et Jésus montre que le chrétien doit dépasser cela. Il ne doit pas s'arrêter à cela. Il doit travailler en vue de la nourriture que le Christ lui-même nous donne. Or, cette nourriture, il va prophétiquement l'annoncer. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Alors, comment comprendre le lien entre le travail d'un chrétien et la gratuité de l'Eucharistie. C'est très étonnant, ça. L'Eucharistie nous est donnée gratuitement. Je sais bien qu'il est dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qu'il faut travailler, que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Quand on n'a pas travaillé, dire aujourd'hui j'ai pas le droit de manger. Alors vite, allez travailler une heure. Puis vous descendrez après. Quel est le lien? Quel est le grand travail du Christ? La croix. Et quand Jésus dit, je suis le pain de vie. Quand Jésus dit que son corps est vraiment une nourriture et son sang une boisson, il le dit dans la lumière de la croix. C'est dans la lumière de la croix que nous pouvons comprendre que Jésus est le pain de vie. Vous vous rappelez l'épître de saint Ignace d'Antioche? Cette magnifique épître où saint Ignace d'Antioche est tout heureux de pouvoir être à la suite du Christ, martyr d'amour. Et saint Ignace rappelle que comme le Christ crucifié, il faut pour l'Eucharistie que les grains soient mous, soient brisés pour former le pain. Et la même chose pour le vin. Le symbolisme du pain conduit directement à la croix. C'est pour ça que Jésus ne dit pas qu'il est le grain de blé, mais qu'il est le pain. Et il est le pain à la croix. Et l'Eucharistie. qui nous lie à la croix, en premier lieu, à la croix glorieuse, mais à la croix. Alors vous commencez à comprendre le lien entre le travail et l'Eucharistie. C'est le lieu du travail du Christ par excellence et la croix. Toute sa vie, Jésus a travaillé. Il a travaillé avec Joseph. Il a travaillé avec les apôtres. La vie apostolique, c'est un travail. Il a travaillé au désert. Il a jeûné et son corps a pâti. Mais le grand travail, c'est la croix, c'est l'offrande de sa vie. Et son corps a été labouré de coups, la flagellation. Il y a un psaume qui nous le rappelle. Alors, l'Eucharistie, c'est le fruit du labeur du Christ. L'Eucharistie réclame le labeur des hommes. C'est dans l'Eucharistie qu'on voit le lien entre le labeur de Dieu, de Jésus à la croix, et le labeur des hommes. En effet, Jésus, pour donner sa chair en nourriture et son sang en boisson, s'est servi du pain et du vin. Il ne s'est pas servi des grains de blé et du lait. Pourquoi ? Parce que le pain et le vin sont le fruit le plus fondamental du travail humain. Et par le fait même, ce fruit, pris d'une façon symbolique, exprime, signifie le fruit de tout le travail de l'humanité. Il faut un jour creuser cela pour mieux comprendre l'Eucharistie, que le fruit par excellence du travail de l'homme, c'est le pain et le vin. C'est pas purement naturel. C'est un artisan qui fait le pain. Il faut de bons artisans pour faire du pain, du bon pain. Et les Parisiens sont très fiers de leur pain parisien. Vous savez, pas meilleur pain que cela. C'est leur gloire. Et les Français sont très, très honorés et très fiers de leur vin. Bordeaux, Bourgogne et puis tous les autres. Châteauneuf du Pape. Il faut avoir quand même le toupet du Châteauneuf du Pape. À cause, évidemment, des événements historiques. Et ça continue. Vous savez que Châteauneuf du Pape, on envoie chaque année un certain nombre de bouteilles pour le Pape. Quand le Pape reçoit des Français, Châteauneuf du Pape, les évêques français, c'est vrai, le pain et le vin. Ça caractérise la France de façon très curieuse. Et Jésus a choisi le pain et le vin pour faire une coopération avec l'homme travailleur, avec l'homme qui découvre toute sa dignité de travailleur. Parce que s'il avait pris le blé, on aurait dit, mais oui, le blé, c'est quand même le fruit du travail. C'est vrai. Mais un travail de l'homme et de la nature. Tandis que le pain, ah, c'est beaucoup plus proche. C'est vraiment l'œuvre artisanale par excellence. Et c'est pour ça que le pain peut servir de symbole pour exprimer le fruit de tout le labeur de l'homme en vue que l'homme ne périsse pas. Tant qu'on a du pain, on ne périt pas. Tant qu'on a du blé, on ne périt pas. Tant qu'on a du vin, on reste joyeux. C'est sûr. Il y a quelque chose qui demeure en nous, de joie. Et puis, le vin exprime la surabondance. Un très bon repas dans des pays de vin qui se fait sans vin, ça ne va plus du tout. Le Jésus nous le montre à Cana. Dans le pas de fête, il y a un manque de vin. Il y a un réalisme. C'est les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Le pain nourrit et le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est quand même très étonnant ce côté, j'allais dire, terriblement humain du Christ. Un grand chef religieux contemplatif comme Jésus. Un chef merveilleusement intelligent et plein de cœur. Ce chef, pour donner son testament, choisit le pain et le vin au terme d'un repas pascal, d'un repas religieux. C'est une simplicité. Quelqu'un qui vous reçoit avec beaucoup de gentillesse, il y a du pain sur la table, puis une bonne bouteille de vin. C'est merveilleux. On a compris ce que ça représente. Eh bien, Jésus dit ça. Travaillez pour l'Eucharistie. Il y a combien de chrétiens qui font ça? Même quand on travaille la philosophie. Hein? Parce que vous travaillez la philosophie pour mieux connaître ce que c'est que l'homme, et pour mieux connaître ce que c'est que le travail de l'homme, et pour mieux connaître ce que c'est que le pain. Il faut mieux connaître ce que c'est que le vin. Et là, on touche, j'allais dire, le réalisme étonnant du Christ, qui donne son testament, se servant du pain, qui nous donne son corps, et du vin, qui nous donne son sang. Pour nous faire comprendre que le mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère le plus nécessaire pour vivre et en même temps le plus surabondant, le plus gratuit. Parce que la vie chrétienne est une vie d'amour. On ne peut pas vivre sans amour. Et la vie chrétienne est une surabondance d'amour, la sainteté. Et le sang du Christ nous est donné pour cela. Alors vous voyez que Jésus lui-même, les théologiens n'auraient jamais osé dire ça. Parce qu'ils n'osent même pas le répéter souvent. Jésus lui-même fait ce lien entre le travail et l'Eucharistie. Pour nous faire comprendre que Jésus n'est pas indifférent au labeur de l'homme. Et si les psychologues disent que tant qu'un homme travaille, on peut toujours espérer. C'est vrai, ça, je crois. Tant qu'un homme travaille, c'est le travail qui équilibre. Quand vous commencez à perdre la tête, mettez-vous à travailler. Si vous le pouvez encore, hein. Mettez-vous à travailler la terre, quoi. Travaillez. Faites la cuisine. Allez nettoyer une cellule, une chambre. Travaillez. C'est ça qui vous remettra d'aplomb. Tous les bons psychologues disent ça. Et ils ont raison. Travail intellectuel, on ne peut pas toujours. Hein. Mais tant qu'on travaille intellectuel et qu'on peut le faire, c'est excellent pour être de la santé. Jésus montre par là que le travail, pour lui, n'est pas le travail de l'homme n'est pas indifférent. Et que lui-même veut sanctifier ce travail. Si le pain et le vin, qui sont le fruit du travail humain, sont transformés dans le corps et le sang du Christ, le travail humain, par la grâce du Christ, rejoint le mystère du corps et du sang du Christ. C'est quand même très étonnant, ça. Et c'est très beau. Et on comprend très bien que Jésus fait ça pour nous faire comprendre jusqu'où la grâce transforme l'homme. Jusque dans le travail. Et un travail manuel. Un travail artisanal. C'est vrai, c'est plus facile de sanctifier le travail artisanal que sanctifier un travail particulièrement sophistiqué. Beaucoup plus difficile. Parce que le travail manuel, il y a la main, le corps de l'homme qui est lié. Et alors, Dieu est proche. Mais je crois que c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, comment pratiquement le comprendre? Puisque nous ne sommes pas tous des boulangers. Nous ne sommes pas tous des vignerons. Comment comprendre concrètement? Les sacrements, c'est une pédagogie symbolique de Dieu pour nous. C'est une récupération du symbole. Ils sont admirables. Parce que la loi ne donnait pas beaucoup de symboles. Donc c'est une récupération du symbole. Puisque la loi se transforme dans les sacrements. Comme assez étonnant, ça. Et puis aussi, c'est que le langage de l'enfant est symbolique. Si vous devenez comme des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc, si vous ne comprenez pas ce langage symbolique, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Impossible. C'est quand même très curieux. Le travail lié au symbole. Et que Dieu veut se servir du symbole pour nous sanctifier. Le symbole, c'est le langage de l'enfant et du saint. Saint Jean de la Croix. Je crois que le langage humain, en dehors du langage inspiré, le langage proprement humain n'a jamais été aussi loin que les flammes d'amour, Saint Jean de la Croix, les sommets. Alors vous voyez, comme comment le travailleur, le poète, tout cela est assumé par les sacrements et le sacrement par excellence, l'Eucharistie. C'est sûr que nous ne sommes pas tous boulangers et vignerons, mais le boulanger et le vigneron n'est pas plus proche de l'Eucharistie que le philosophe qui travaille dans sa chambre ou que le théologien qui travaille dans sa chambre. Non, puisque on passe par la loi du symbole. Et il y a des boulangers positivistes qui n'aiment pas beaucoup le symbole, qu'ils rejettent. Et en tant que positiviste, ils s'éloignent énormément de l'Eucharistie. Alors il faut comprendre que la foi va regarder le travail. C'est un regard de foi. Et que dit la foi du travail humain? La foi, le regard de la sagesse de Dieu sur le travail humain. La foi contemplative nous fait comprendre que le travail humain est une manière de réparer l'orgueil des hommes. On le voit bien dans ce chapitre 6. Les hommes qui avaient mangé ce pain miraculeux n'avait qu'un seul désir, c'est de faire que Jésus soit leur roi pour que tous les jours, ils aient le pain. Donc, on voit bien comment l'homme, tellement vite, désire dominer, même le Christ. Si le Christ donnait le pain et le vin tous les jours, tout le monde courrait après. Ça, c'est bien évident. Je ne dis pas qu'on cherchera à le connaître et à l'aimer. On profite de lui. Le plus qu'on peut. Alors, il faut comprendre, dans un regard théologique, que la grande manière pour nous d'éviter l'orgueil, c'est le travail quotidien. Un travail pénible, dur, qui peut être aussi bien un travail intellectuel que s'occuper d'un chantier. Ça n'a pas d'importance. Vous savez, entre l'Eucharistie et le boulanger, entre l'Eucharistie et le philosophe, entre l'Eucharistie et la mère de famille, pas une grosse différence. Il y a un abîme tel entre le fruit du boulanger et le corps du Christ, que cet abîme n'est pas du tout comblé par le fruit du travail du philosophe, le fruit du travail du théologien. Non, pas une grosse différence. Un petit cheveu, très peu de différence. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la foi qui nous donne ce regard, que Jésus a choisi le pain et le vin, le fruit du labeur de l'homme, alors que le labeur de l'homme reçoit très lourdement la conséquence. Sur ton front. Et donc, on voit bien comment Jésus veut que nous assumions cette conséquence du péché originel, un travail pénible, un travail douloureux. Pourquoi cela? Pour pouvoir être un avec le Christ. unir notre labeur quotidien au grand labeur du Christ crucifié. C'est ça, la sainteté. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture que vous donne le Fils de Dieu. Il y a là quelque chose de très grand, vous voyez, parce que ça montre comment Jésus se sert du pain pour tout transformer dans notre vie par l'Eucharistie. Il se sert du vin pour renouveler tous les jours l'espérance, le désir, la joie. Je crois que c'est important pour nous. Au moment où les hommes n'aiment plus travailler, au moment où les hommes voudraient très vite être dispensés de travailler, de rappeler ce regard du théologien sur le mystère, sur le labeur de l'homme, le fruit de l'homme. Et lui-même faire que ce labeur soit pour lui source